Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 277e épisode de notre podcast. Une première partie des émissions de décembre qui sera un peu plus courte, qui ne contiendra que des chroniques de comics et d'une adaptation sortie récemment. On vous parlera plus tard dans le mois de notre bilan de l'année, mais pour le moment, vous allez écouter le 277e numéro de Comic Stories. Comme le mois dernier, Anthony.
Bonsoir, bonjour.
Erwan.
Salut, salut.
Et le comeback de Clément.
Salut.
On va espérer qu'il n'y ait pas de problème technique cette fois-ci, que tous les fichiers soient propres, que tout se passe bien, et qu'on puisse proposer deux émissions complètes, contrairement au mois dernier. Donc je le disais, première partie du numéro de décembre, quelques chroniques au programme, des comics pour commencer, et puis on parlera en fin d'émission d'une adaptation. Qui était très très attendu, notamment par Anthony, et dont je vous dirai quelques mots. On va commencer par les comics, et puisque je parlais d'Anthony, et ben Anthony, toi, comics égale Marvel.
Exact. Égale Marvel 2-in-1 même. Donc c'est un petit peu la seringue qui nous permet de vivoter jusqu'au retour des 4 Fantastiques. Parce qu'en fait, depuis la fin de Secret Wars, on n'a rien, on n'a plus rien du tout. Ni FF, ni Future Foundation, absolument rien. Et donc, c'est un petit peu la piste à suivre jusqu'à leur retour, hein, qui a déjà démarré en VO, mais donc la VF va nous apporter ça, je pense, l'année prochaine. Donc, en tout cas, ce Marvel 2-in-1, c'est écrit par Chip Zdarsky. Donc, c'est un auteur qui, si vous me suivez un peu sur les critiques, notamment sur Spider-Man, que je n'apprécie pas tellement, pour être tout à fait honnête, que ce soit donc sur Spectacular Spider-Man, il avait écrit Howard the Duck, Star-Lord, aucune de ces séries ne m'a plu, ça parce que je pensais que ça allait être le prélude aux 4 Fantastiques. Alors c'est un petit peu ça, sauf qu'en fait c'est surtout un prétexte pour nous écrire une série avec la Torche et Ben Grimm. La chose, le départ est très simple. Ben Grimm va trouver un gramme sur lequel Reed Richards a enregistré un dernier message avant leur disparition avec Molecule Man. Ça va être un prétexte pour pouvoir voyager dans le multivers, aider Johnny Storm pour pouvoir, soi-disant, rechercher la trace de Reed, Suzanne et donc Franklin, Valeria et toute la Future Foundation, mais c'est surtout histoire de vivre des aventures avec des versions alternatives de l'univers Marvel. En fait, c'est surtout ça. Prélude aux 4 Fantastiques, je trouve que c'est pas génial, puisqu'on n'apprend vraiment rien de plus. En tant qu'expérience d'aventure dans le multivers, c'est plutôt bien écrit. Alors, Chip Zdarsky, c'est assez marrant parce que c'est un auteur reconnu pour son humour et je trouve que pour moi, ça marche absolument jamais. Il fait des numéros un peu plus intimistes, un peu plus qui virent plus sur l'émotion. Là, c'est tout de suite beaucoup plus pertinent, plus introspectif. Il y a quelques passages avec la Torche qui craque parce qu'en fait, il est seul, avec Ben Grimm qui tente de le rassurer, des explosions de pouvoir. Il y a aussi tout un délire sur les pouvoirs qui s'amenuisent des deux personnages, je ne sais pas pourquoi, mais c'est précisé. Zdarsky se fait un petit trip sur un univers alternatif où là, les FF, du moins une partie des FF ont survécu, où Fatalis est modifié et où chacun des différents protagonistes vont retrouver un petit peu leur valeur perdue. Bon tome, c'est surtout très joli parce que la plupart des numéros est dessiné par Jim Chung, donc je ne l'ai pas dit, mais ça complète les numéros 1 à 6. Donc les deux tiers sont dessinés par Jim Chung, donc c'est très très beau, brisé aussi. Donc de ce point de vue-là, pas de souci. Voilà, à conseiller à ceux qui sont friands de ce genre de délire autour des FF sans les FF finalement. Et par contre, point noir pour moi, c'est Infamous Iron Man, qui là est écrit véritablement comme Fatalis et non pas comme Infamous Iron Man. On le sait, Bendis à chercher à vraiment à Victor von Fatalis, sans que l'on sache encore pourquoi, hein, dans le titre en cours. C'est toujours pas ce que veut Fatalis. Et là, bizarrement, le personnage est vraiment réécrit comme ce halo à la fois scientifique et magicien, et je trouve que ça marche absolument pas. Au-delà de ça, je conseille pour ceux qui veulent se faire un petit trip dans le multivers, d'émotion.
Du coup, en grand fan de Chip Zdarsky, tu dois être ravi de savoir que c'est lui qui prend le flambeau de Charles Soule sur Daredevil.
Oui, j'adore ça.
Enfin, la bonne nouvelle, c'est que Charles Soule a lâché le flambeau.
Ça c'est une bonne nouvelle. Moi, je voulais pas Chip Zdarsky. Après, encore une fois, hein, s'il prend la direction du côté introspectif du personnage et abattu, hein, parce que Daredevil est un personnage qui a drame. Si on pouvait éviter les blagues, ça m'arrangerait.
Je comprends. Avec donc du coup pour la news hein, Marco Cecchetto au dessin
Ça, par
pour cette
contre,
prochaine nouvelle série Daredevil. Voilà. Bon, ça pourra pas être pire de toute
Mingus.
façon. Ouais, on. Quelqu'un d'autre, Erwan Clément, a jeté un œil à ce Marvel 2-in-1? Moi pas, hein, clairement.
Pas du tout, parce que tout simplement que ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je ne lis plus de Marvel.
Comme ça, c'est réglé.
Eh bien, pas du tout non plus.
Eh ben c'est parfait, on peut passer à la suite. On va terminer la micro-partie Marvel avec deux fins de série qui ont comme point commun Donny Cates et qui ont comme point commun aussi d'être pas terrible, terrible. C'est Death of Inhumans et Cosmic Ghost Rider. Les deux séries avaient le point commun de démarrer sur une espèce de folie furieuse, d'inventivité, de créativité, enfin tout ce qu'on veut. Enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'était vraiment des lancements de séries et des cliffhangers à chaque fois, tous plus fous les uns que les autres. Et un espèce de pied monstre à suivre ces deux séries. Et puis les deux derniers épisodes, donc épisode 5 pour chacune de ces deux séries. Donc Death of Inhumans et Cosmic Ghost Rider, bah ouais, genre j'avais presque envie de dire à la fin des deux fois quoi, tout ça pour ça en fait. C'est ok, Cates range les jouets poliment, proprement, mais il fait juste que ranger les jouets, voilà. Et derrière, bah, la petite vie des personnages peut continuer comme elle était avant, sans que finalement tout ce qui s'est passé, bon, voilà. Alors il
Syndrome Brain New Day.
y a syndrome. Je sais même pas quel syndrome en fait. Syndrome,
Syndrome, j'ai.
faut bien qu'il y ait des auteurs qui reprennent les personnages derrière, alors je peux pas non plus faire n'importe quoi.
C'est un peu ça, ouais.
Je sais pas, mais en tout cas, il y a des conséquences, hein. Death of Inhumans, oui, il y a quand même vous le verrez, une bonne partie du cast qui a eu droit à la promesse du titre. Cosmic Ghost Rider, il y a des choses qui ont été amenées quand même, etc. Mais quand on voit le potentiel et les promesses qui sont faites au début des deux séries, et qu'on voit le résultat à la fin, bon, bah franchement, ça fait un peu mal au porte-monnaie d'avoir claqué 5 fois 4 $ par série pour ça.
Thanos,
Comment?
moins bon que Thanos.
Pas dans le démarrage à chaque fois, hein. Enfin, les trois premiers épisodes des deux séries, franchement, c'est la droite lignée de Thanos, la même folie, la même inventivité, les mêmes cliffhangers, tout ça. Après, le 4, ça commençait à descendre, et alors le 5, c'est vraiment je plie les Gaules et voilà quoi. Et je reste bien propre, etc. Dommage. C'est tout ce que je peux dire de ces deux conclusions. Dommage. Comme quoi, Donny Cates. Et ça fait plaisir à Erwan que je dise
Bah, tu vois, je l'avais dit.
ça. Eh bah tiens, Erwan, je parle de fin de série ratée, tu vas parler d'un début de série réussi. Enfin, a priori, c'est réussi pour toi aussi.
Ah bah totalement, et puis de toute façon, je suis
Ah.
fan du perso et de la personne qui est aux commandes. Donc comme ça, tout est réuni. Donc ouais, ce mois-ci, c'était le début de Shazam. Alors le début, on va plutôt dire la suite, parce qu'en fait, c'est un faux début. Parce que si vous vous rappelez, comment dire? Dans les New 52, il y avait une série Shazam qui était en complément du comic book Justice League. Et c'est les petites histoires à chaque fin d'issue que Geoff Jones avait écrit et que Gary Frank avait dessiné. Et en fait, clairement, bah, ça reprend à la fin de cette série-là. Et le titre qui est marqué sur le comic, c'est Shazam, même si dedans c'est marqué Shazam and the Seven. Donc c'est un peu perturbant. Et franchement, la suite est très très réussie. On retrouve George Jones à l'écriture, donc c'est toujours aussi lissé, c'est parfait. Et au dessin, on a Dale Eaglesham, que je ne connais pas du tout, mais qui fait un bon travail. Et franchement, c'est une issue qui est drôle, qui reprend bien les codes de Shazam, qui reprend la suite. Maintenant, il manque un peu de Sivana à mon goût. Mais pour l'instant, c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous.
Alors, moi je l'ai lu, Clément, je
Moi
crois que tu l'as
aussi,
lu, ouais,
oui,
vas-y, vas-y.
je l'ai lu hier. À la base, je l'avais pas du tout commandé et tout. Puis en fait, c'est avec les super bons retours que j'ai été intrigué. surtout que c'était Geoff Johns. Donc moi, je connais pas du tout le personnage de Shazam. J'avais jamais lu de comics de Shazam avant celui-là. Bah franchement, je me suis bien marré. C'était hyper cool. C'était bon enfant. C'était fun. Enfin c'est ça, c'est fun. C'est pas prise de tête. Et effectivement, comme tu dis, j'ai retrouvé moi tout est à la fois la simplicité et la qualité de l'écriture de Geoff Johns. Où vraiment c'est tout était comme tu dis lycée. Donc c'est... non franchement c'était cool et clairement je vais lire la suite sans aucune hésitation. C'était vraiment cool. Maintenant j'attends de voir ce que ça donnait. Même si le premier numéro m'a intrigué quand même. Sur la fin ça semble assez intéressant. Donc franchement c'est vraiment une très bonne surprise de cette fin d'année.
Bon on est unanime hein, c'est la même pour moi. C'est carton plein pour Shazam numéro 1 du coup. On se fatigue pas à nous refaire les origines du personnage. J'avais un peu peur de ça avec le numéro 1, de me dire, allez, on va se taper un numéro complet d'origine. Finalement, ouais. Non, c'est torché en quelques pages et c'est très bien. On pose les bases d'une nouvelle histoire qui, effectivement, prend la suite de New 52. À une époque de Doomsday Clock, de Heroes in Crisis et compagnie,
ouais, complètement.
Ça fait un peu de bien voilà, de lire des histoires qui sont lumineuses. Derrière, oui, évidemment, la suite, je suis hyper, hyper hypé aussi, et ça semble solide. J'aime bien cette petite histoire complémentaire aussi, je pense qu'il en fera d'autres sur d'autres membres de la famille dans les prochains numéros, donc ça c'est sympa aussi. Et puis bah, le petit clin d'œil, évidemment, au nom originel du personnage, c'était sympathique ça aussi. Donc, Shazam numéro 1 à suivre. On parlait de lumière. Alors, on va l'éteindre. Et puis, Clément, tu vas nous parler de Doomsday Clock.
oui. Donc là, on en est au numéro 8. Donc, on a eu un. Donc, Doomsday Clock, ça fait quand même environ un an, je crois, que ça a commencé, voire plus.
Oh, 3-4 ans, non?
Ça donne cette impression, ouais. Bref, enfin, beaucoup de retard. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le problème pour compliqué pour suivre la lecture. Donc ça fait suite à un excellent numéro 7 où vraiment les choses se sont accélérées. Et puis là, le 8, je suis resté un peu sur ma faim, ou du moins, je sais pas, il y a un truc qui manquait. C'était un numéro qui était très axé à la fois sur Superman et Firestorm, je crois de mémoire. Je vais pas spoiler parce que honnêtement c'est tellement dense que je serais incapable de restituer, mais ça me laisse sur ma faim. À la fois il y a des bons éléments, hein, le dessin de Gary Frank, l'écriture de Geoff Johns, bon, y a rien à dire. Maintenant je reste assez dubitatif sur la fin, mais vraiment la toute fin, la dernière page, parce que j'ai l'impression qu'on va nous refaire un Watchmen bis avec ce cliff de fin, quoi. Ça me laisse assez dubitatif, quoi. Je vois pas où Geoff Johns va nous amener, ce qui peut être à la fois un point positif, hein, mais en l'occurrence, je sais pas, il y a un truc qui m'a laissé dubitatif, et c'est le problème de Doomsday Clock. Tu vas avoir un numéro où vraiment l'histoire va avancer, et t'as un autre numéro où, ça va stagner, quoi. Ça va pas continuer à avancer, quoi. C'est en dents de scie. Et je trouve que c'est un des problèmes de Doomsday Clock. Mais après, je pense que, comme je l'ai dit, la lenteur de l'édition de Doomsday Clock doit jouer aussi, puisque je pense qu'il sera plus qu'intéressant de relire tout Doomsday Clock une fois que c'est sorti. Mais voilà, je suis assez partagé sur ce huitième numéro.
Je suis partagé aussi. Doomsday Clock, c'est un mois sur deux et c'est un numéro bon sur deux. Donc du coup, ouais, ça fait qu'il faut attendre 4 mois avant de lire un bon épisode. À chaque fois, c'est un peu pénible. Un épisode en avance et un épisode où on regarde le fait qu'on ait avancé.
C'est ça, exactement. Totalement, tu résumes parfaitement.
Bon, voilà, c'est un concept. Effectivement, je me demande si je vais pas lire les derniers une fois que tout sera sorti, parce que... Ça devient long, on perd vite le fil et c'est...
Oui, c'est le gros problème, c'est tellement dense que honnêtement, le problème, t'as 2 mois d'écart et moi honnêtement, je me dis putain, qu'est-ce qui s'est passé déjà il y a 2 mois. C'est assez problématique pour suivre le fil, parce que c'est quand même, ça se veut quand même comme une œuvre entre guillemets, donc forcément ça fait écho à des éléments qui se sont passés. Or là on est au 8e numéro et on est à plus d'un an de travail dessus. Donc, et manifestement, il reste quoi? Il reste 4 numéros?
Oui, ça va finir en fin d'été, je crois.
Donc 8 mois, quoi. Oui. Donc c'est long, quoi. C'est un peu long. Très, très long.
Erwan, tu suis Doomsday Clock?
Moi, je vais suivre un retardement. Et si vous dites que la fin, c'est dans 8 mois, je vais le lire dans 8 mois, du coup, parce que j'attends d'avoir tout pour tout enchaîner.
Je pense que c'est la bonne solution.
Il faut que je lise Watchmen avant, donc c'est pour ça aussi.
Du coup, tu as 8 mois pour lire Watchmen.
C'est ça.
On continue du côté des events de chez DC avec le troisième numéro d'Heroes in Crisis. Clément, est-ce que ça, c'est toujours un numéro sur deux ou pas?
Alors non, c'est très différent. C'est le deuxième numéro était vraiment excellent. Là, le troisième l'est aussi. Vraiment, parce qu'on voit bien que Tom King est en train de mettre quelques pistes. Mais, il m'a laissé. Enfin, j'ai eu un sentiment très étrange en terminant ce numéro. C'est que, je sais pas, je les trouve. Ouais, le mot étrange dans la construction de la narration, c'était très étrange. On apprend beaucoup de choses sur le sanctuaire, c'était vraiment intéressant. Mais voilà, y a un truc étrange.
On sent bien qu'il y a quelque
Il y a
chose qui
des
va pas.
choses. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est volontaire, mais il y a un truc, quoi. J'ai l'impression que Tom King essaye de nous berner un peu et que. Et voilà, y a un truc. Mais oh, sinon, c'est vraiment super bien écrit. Moi, j'aime beaucoup donc ces espèces d'interludes où on voit d'ailleurs pas que les super-héros, hein, ça peut être très bien Poison Ivy. D'ailleurs, ce qui était dans ce numéro-là, Poison Ivy, qui va s'exprimer un peu face caméra, donc dans le sanctuaire. Et voilà, on va voir tout le côté psychologique ressortir. Et ça, c'est vraiment très réussi. Honnêtement, même si ça m'a lancé un sentiment étrange, je trouve que pour le moment, c'est un sans faute, clairement. C'est un des meilleurs numéros. Donc, je suis curieux de voir après l'incidence que ça va avoir sur les autres séries. Espérons qu'il y en ait.
Anthony, je ne pense pas que tu le suives.
Dans une crise,
Ouais.
je vais le suivre, mais pas encore.
Pas encore, oui. De toute façon, tout ce qui est DC VO là actuel, tu suis pas.
Non, après, bon, on y reviendra par la suite, mais il y aura peut-être une bascule qui va se faire. Ça fait 6 mois, voire 6 ans que je parle de ça, mais je le fais jamais.
Oui, c'est vrai, on en parle très souvent de ça. Erwan, Heroes in Crisis?
J'attends le TP pour pouvoir aussi tout lire, même si j'étais spoilé par pas mal de covers qu'ils ont sortis, ça c'est pas cool. Mais ouais, j'attends le TP pour tout
Ok.
découvrir tranquillement.
Pour ma part, j'ai plutôt apprécié ce numéro 3. Même impression, un truc qu'on nous dit pas, un truc qu'on nous cache, qu'on essaie de nous faire croire, sans que j'arrive vraiment à mettre le doigt dessus, bien que j'ai une idée enfin, à propos
Moi aussi,
du
hein.
personnage qui pourrait être concerné par cette supercherie. On ne va évidemment rien dire, on n'est pas là pour spoiler,
Ouais.
mais voilà, c'est en tout cas assez intrigant et. Après, moi j'aime bien cette atmosphère depuis le numéro 1. Je sais que ça divise un peu ce titre, mais je suis plutôt dans le camp des pros pour cette série.
Ouais, c'est pas gay, hein. Bien sûr, quand on parlait de Shazam, c'est vrai, tu bascules de Heroes in Crisis à Shazam, niveau ambiance, ça change beaucoup, quoi.
Ah bah
Et
clairement.
mine de rien, c'est là aussi que c'est réussi, c'est qu'il y a une ambiance quand tu lis Heroes in Crisis qui est assez pesante, mine de rien. Donc,
Et alors là, sur cette série, celle dont on va parler maintenant, j'ai un peu hâte d'avoir ton avis, parce qu'on en a parlé la dernière fois avec Erwan. Et bon, j'ai hâte de voir ce que ça devient tout ça. Enfin, moi j'ai abandonné au premier épisode, vous le savez, Adventures of Superson.
Alors. Donc moi j'ai lu les derniers numéros. Donc moi j'adore le personnage de Damian Wayne. C'est l'un des personnages que je préfère dans le Batverse. Je l'ai découvert avec Thomasy dans Batman and Robin à l'époque des New 52. Et John Kent, pareil, je l'ai découvert assez récemment. J'avais pas eu l'occasion de lire son la série qui précède celle-là d'ailleurs, je crois. Si je dis pas de bêtises.
Il y avait eu
Bon.
Robin, Son of Batman, entre les deux, si je peux me permettre.
Oui, c'était quoi? Oui, je l'avais lu. Excellente aussi comme série, mais t'as raison.
C'est cool.
Je l'avais oublié. Alors là, on est au numéro 5, je crois.
Ouais, je crois bien, ouais.
Bon, je vais continuer la série parce que j'ai quand même envie de voir où ça va nous mener. Mais je ne sais pas ce que prend Thomasy pour nous faire un scénario pareil. Mais il faut être honnête, je ne comprends pas son délire. C'est juste mauvais. Je vois pas, je comprends pas où est-ce qu'il est allé chercher là des aliens qui se mettent en espèce de bébé Lex Luthor, bébé Captain Cold et compagnie. C'est assez affligeant. Et puis surtout, et je trouve que c'est quand même le gros problème, c'est que je retrouve pas du tout la caractérisation au moins de Damian Wayne, ou en tout cas, je suis pas hyper friand des interactions entre les deux protagonistes principaux. Donc ça me pose problème. Autant le numéro 3 et 4, ça allait, ça passait, mais alors le dernier numéro, c'était une plaie, quoi. J'arrive pas à voir où va nous mener Jito Massi, je vois pas l'intérêt en fait, surtout de cette série. Donc là, pour le, effectivement, c'est une catastrophe, ce numéro. Enfin, ce numéro et même cette série d'ailleurs, c'est vraiment une catastrophe.
Tu confirmes, Erwan ?
Exactement, exactement. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est la même chose. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que ça font une série hommage et de clin d'œil. Parce qu'on trouve plein d'éléments, comme j'avais déjà dit hein, la dernière fois, plein d'éléments des anciens comics, des pré-New 52, des New 52. Et donc là, le dernier en date, c'était la maison des secrets, un truc comme ça.
Mm-hmm. Oui, c'est
et,
ça, ouais.
Franchement, à part faire des clins d'œil comme ça, je vois vraiment pas à quoi sert cette série, en sachant
ah,
que la première fonctionnait très très bien. On était tous contents, je pense, de l'annonce des 12 numéros supplémentaires, un peu de répit pour la série Super Sons. Et finalement... on est au cinquième, on est quasiment à la moitié, et ça décolle pas. En fait, ça. Alors, l'histoire décolle dedans, et puis à la fin de l'issue, on retourne au point de départ. Donc, il n'y a pas eu d'évolution de l'histoire, c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage.
Je t'avoue que je me souviens même plus, en fait, comment on se termine ce numéro, mais après, je suis d'accord avec toi. C'est... Il reste 6 numéros, mais où est-ce que ça va nous mener, quoi? C'est... Mmh. Je crois, à l'époque, quand il y avait Robin, Son of Batman, on savait plus ou moins que c'était une série limitée. On sentait bien que ça allait mener quelque part, mais alors là, honnêtement, alors j'ai bien compris, oui, qu'il y a le adventure. Là, oui, effectivement, c'est des aventures, mais alors franchement, c'est quoi l'intérêt? Ça apporte quoi au personnage? Rien. C'est ça apporte strictement rien.
Ouais. En sachant que la CW a teasé la probable apparition d'un John.
Oui.
Mais bon, oui, est-ce qu'ils vont s'en servir derrière?
J'y crois pas.
Ok, et eh bien tout ça nous fait bien rêver et je suis bien content d'avoir arrêté. Alors, si je reprends le programme, eh bien, je crois qu'il ne reste plus qu'une chose à aborder du côté des comics pour ma part. Alors, encore une fois, un parallèle. J'avais fait le parallèle entre Death of Inhumans et Cosmic Ghost Rider tout à l'heure. Là, je vais faire le parallèle entre Black Hammer Age of Doom numéro 7 et The Green Lantern numéro 2. Alors là, premier aperçu comme ça, c'est pas simple de faire le parallèle entre les deux. Et pourtant, dans Black Hammer Age of Doom, le numéro 7, le dernier en date, Jeff Lemire se prend pour Grant Morrison, clairement.
Ah bon ?
Il nous pose là un numéro complètement dingue à la Multiversity, qui fait voler le quatrième mur et tous les autres murs en éclats. Enfin, c'est assez dingue, l'ampleur que prend du coup le Black Hammerverse dans ce numéro. C'est dingue, c'est génial. Enfin, franchement, c'est peut-être le meilleur numéro de la série jusque-là. Et pas le plus joli, parce que franchement, je n'y arrive pas. Les dessins de Rich Tomaso, je peux pas. Voilà, je ne sais pas quelle idée a pris à Jeff Lemire de demander à ce dessinateur-là de collaborer avec lui. Mais vraiment, non, je trouve ça pas beau, quoi. Je trouve ça pas beau, mais ça m'a pas empêché d'adorer cet épisode et quand même de penser que c'est le meilleur de la série. Voilà, si vous avez lu Multiversity, si vous savez un petit peu quel concept ça peut poser par rapport au multivers, etc., vous voyez peut-être de quoi je veux parler concernant ce numéro. Donc on a d'un côté Jeff Lemire qui se prend pour Morrison et qui le fait super bien. Et puis de l'autre côté, on a Green Lantern avec Morrison qui se prend pour Morrison et qui le fait un peu moins bien.
C'est surprise ou pas.
Dans le numéro 2, j'avais beaucoup aimé le numéro 1 de son Green Lantern. J'avais lu quelques avis un peu mitigés de gens qui comprenaient pas trop où ça voulait aller. Voilà, moi j'avais vu quelques clins d'œil à la continuité, c'est principalement ce que j'aime chez Morrison, c'est sa connaissance, sa maîtrise de la continuité, son amour de la continuité et la manière qu'il a de la réutiliser. Et donc du coup on avait un numéro 1, certes nébuleux, mais voilà, très ancré, très référencé, et moi ça me suffisait, en plus du Coming Next qui m'avait bien plu. Par contre là, le numéro 2, franchement je suis incapable de vous dire ce qui se passe dedans, je n'ai rien compris.
Ah oui ! Pourtant, c'était pas supposé être. Alors, si j'ai bien compris, Morrison voulait faire, en gros, je caricature à peine, Green Lantern, policier de l'espace, quoi.
Oui, oui, non, mais ça, oui, ça, je l'ai compris. Mais qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi? J'ai rien compris. Je n'ai rien compris au numéro. Alors, je le relirai. Peut-être que j'étais fatigué, j'étais pas disponible à ce moment-là. Mais franchement, hein, si le numéro 3, 4, voilà, si ça continue sur ce terrain-là et que je lis juste un truc et que j'ai juste besoin de prendre un Doliprane à la fin de ma lecture pour essayer déjà de m'en remettre avant d'essayer d'imaginer comprendre un traître mot de l'histoire, j'arrêterai. Ça a beau être magnifique au niveau des dessins, des covers de malades et quoi que ce soit. J'aime quand même comprendre ce que je lis. Et là, c'était clairement pas le cas. Donc, voilà. Je le relirai. Je relirai le numéro 1, 2 et 3 à la suite quand le troisième sortira pour voir si j'arrive mieux à comprendre. Mais bon, voilà. J'attendrai peut-être que ça soit tout sorti pour lire la totale d'une traite, quoi. Et en TP plutôt que d'acheter des singles. Ça me coûtera toujours moins cher. Donc,
Et
petite.
toi, excuse-moi, je pense que Liam Sharp est un peu responsable aussi de ça parce que ce qu'il fait, alors c'est peut-être, ce serait beau ce qu'il fait, mais c'est un peu fouillis.
Un peu, ouais.
Et du coup, on n'arrive pas trop à voir ce qu'il veut raconter, ce qu'il faut regarder, est-ce qu'il faut regarder les images, est-ce que le texte est en lien, et c'est vraiment que c'est trop chargé ses dessins. Et franchement, un Green Lantern volcan,
Hein?
il
Oui,
y a
non,
un
non,
Green Lantern.
ouais,
Oui?
Morrison a ressorti, ouais, a ressorti sa bonne came, quoi. Oui,
Green
bon,
Lantern,
voilà.
volcan?
Avec une tête de volcan en éruption. Et voilà, c'est.
Mais c'est quoi ça, la drogue?
Je sais pas ce qu'ils prennent chez DC, mais en ce moment, ouais, c'est un peu fouillis.
C'est
Et
un peu
voilà,
de la
ça
bonne
aide pas.
là.
Ça aide pas du tout, je pense.
Alors, connaissant Morrison, hein, ces personnages-là, ces trucs-là sont apparus dans un numéro obscur d'un S-World ou de je ne sais quoi. Il les réutilise là, et voilà, il n'y a que lui qui le sait. Ouais, effectivement, les dessins sont certes jolis, mais pas très lisibles parfois. Et peut-être que ça aide, enfin, ça contribue au fait que je me sente paumé en lisant ce truc-là. C'est possible. Bon, bah, à suivre les mois prochains, en tout cas, enfin, en tout cas, le mois prochain, et puis après, je déciderai si oui ou non, les variantes cover suffisent. Voilà pour les chroniques en termes de lecture pour ce mois de décembre. Donc des choses assez variées, ma foi, en ce qui concerne la qualité. On va terminer par quelques mots sur peut-être le film qu'Anthony attendait le plus cette année.
Et que je n'ai toujours pas vu.
Et que tu n'as toujours pas vu, que je suis, je crois, le seul à avoir vu.
Oui.
Oui.
Spider-Man Into the Spider-Verse pour son titre en VO et New Generation pour son titre en VF, pas en français du coup. Bon, pourquoi ce choix de traduction, ça peut se comprendre, mais pff, quel intérêt de traduire, enfin de modifier un titre en anglais pour mettre un autre titre en anglais sur une version française, je comprends pas. Bon. On aurait pu garder ce titre-là, mais peu importe. Donc je l'ai vu ce matin, et puis bah, clairement je m'en suis toujours parmi, c'est une dinguerie totale ce film. Clairement le film, enfin l'adaptation de comics de l'année, hein, il n'y a pas de combat enfin, par rapport aux autres films, voilà, ils peuvent tous clairement aller se rhabiller, et je ne vois pas même du côté des séries quelque chose qui m'ait autant emballé cette année en termes d'adaptation, à part peut-être, et ça fera plaisir à Erwan, Titans.
Ah bien.
Mais
Ah toi.
dans un tout autre genre, dans un tout autre genre. Non, vraiment, c'est le film Spider-Man qu'on attendait, enfin que moi j'attendais, bien meilleur que tout ce qui s'est fait jusque-là, même bien meilleur qu'Homecoming que pourtant j'ai bien aimé. Une animation, mais d'une beauté, c'est époustouflant, la beauté du truc, enfin c'est vraiment à voir sur un écran de cinéma parce que c'est magnifique. La technique utilisée pour l'animation, c'est somptueux. La manière de retranscrire les distorsions dues aux différentes dimensions, aux différents, comment dire, les distorsions du continuum espace-temps, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est fou. Et c'est dès le générique d'ouverture, on voit cette utilisation graphique-là avec le logo Marvel qui est complètement distordu et qui prend 50 000 versions différentes dans une espèce de truc un peu psychédélique. C'est magnifique. La musique, ça fonctionne. Le scénario est solide. Un pied total de voir ces personnages-là, ces versions-là de Spider-Man. Même Spider-Gwen, je l'ai aimé dans ce film-là, enfin, c'est dire. Pourtant, voilà quoi. Et un vrai hommage au créateur aussi de tous ces personnages-là, voilà, avec encore une fois quelque chose de très à la mode en ce moment et de très morrisonien, entre guillemets, avec ce référencement perpétuel des comics, enfin des personnages comme étant des personnages de comics, et les couvertures, les vraies couvertures, hein, des vrais comics de la vraie vie, j'ai envie de dire, qui apparaissent à l'écran au moment d'introduire certains personnages, etc. C'est ouf. Voilà, les petits clins d'œil au nom des créateurs, le caméo de Stan Lee qui, dans le contexte actuel, par rapport à l'actualité, et sa disparition, enfin, ouais, c'est un caméo qui a une résonance toute particulière par rapport aux propos qu'il tient dans cette apparition-là. C'était assez émouvant. De même qu'un hommage bourré de classe de la part de Sony et Marvel, sans doute aussi, et du réalisateur de l'équipe du film. Hommage à Stan Lee et Steve Ditko, qui ont disparu tous les deux cette année. Et on a un truc, voilà, hyper sobre, mais d'une classe et d'une. Ouais, voilà, peut-être un des hommages les plus émouvants qui a pu être fait à ces deux personnes cette année. Voilà, c'est à la fin de ce film-là. Donc foncez, 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 allez voir ça. Enfin, voilà. Si, si.
Question, tu l'as vu en VO ou en VF?
Je l'ai vu en VF et pourtant je l'ai adoré. Donc voilà. Et je l'ai vu avec plein de gamins partout autour de moi. Et ça m'a pas empêché de
Ouille.
l'aimer. Donc.
Et tu sentais que c'est cette comment dire, on va appeler ça cette communauté-là, ils ont aimé ou pas les...
Les gosses ont pris leur pied, clairement.
Okay.
Les gosses, les parents qui les accompagnaient, beaucoup de papas, il y avait qu'une maman, je crois. Ouais, tous étaient là et on sont sortis le sourire aux lèvres et les yeux qui brillaient. Enfin, vraiment, c'est un carton plein dans tous les avis que je peux voir, sur les visages que j'ai pu voir autour de moi à la séance du matin, qui est habituellement assez vide et qui pourtant, là, aujourd'hui, il y avait du monde. Donc ça me fait plaisir parce que quand je vois les scores de films comme Venom. Voilà, il y a clairement une différence et j'espère que ce Spider-Man Into the Spider-Verse saura profiter des vacances de Noël et de cet esprit familial parce que c'est vraiment un excellent film familial, un vrai film Spider-Man. Enfin, c'est à tomber. Et puis Miles Morales, Anthony, toi qui es fan de lui, tu vas te faire dessus, c'est pas possible. Enfin, c'est dingue. Voilà.
Ok, ça marche.
Voilà. Pour moi, l'adaptation de l'année, on verra une fois que vous l'aurez vu si vous avez ce même avis-là. Mais en tout cas, voilà, ne passez pas à côté de ce film-là. C'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est mauvais. Rappelez-vous de Lego Batman. Voilà pour les chroniques de ce mois-ci. Il y a encore un film à sortir cette année, c'est Aquaman. Bon, on verra qui le voit parmi nous.
Moi, c'est certainement.
Voilà,
C'est prévu.
je sais pas encore.
C'est pas.
Je verrai, parce que là, pour le moment, il m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Clairement.
C'est un peu ça, ouais. Mais les
Voilà.
retours ont pas l'air ultra négatifs, donc ça m'intrigue quand même.
J'irai peut-être le voir parce que Aquaman est un personnage quand même sympa. Après, je sais pas, on verra. Bref, en tout cas, fin des chroniques pour le mois de décembre. On se retrouve en toute fin d'année, dans les tout derniers jours de 2018 pour notre bilan. Ça sera dans le numéro 278. Et puis, on peut déjà vous le dire, les Comic Stories de janvier, évidemment, ce seront les Comic Stories Awards. Guettez nos pages Facebook notamment et les publications sur le site, puisque les votes ouvriront tout début janvier, histoire d'attendre que toute l'année soit terminée et qu'on puisse nommer des choses en fonction vraiment de tout ce qui est sorti en 2018. On se retrouve dans une grosse dizaine de jours pour le bilan 2018. D'ici là, bonne lecture, bon ciné si vous allez voir Spidey ou Aquaman, et à très vite.